Pas un jour ne passe sans que je me noie dans cette peur. Et si je n'étais pas à la hauteur dans mon devoir vis-à-vis de mon Créateur?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.
Marhaba, bienvenue dans le podcast Opération Firdaus, le podcast pour la jeunesse musulmane qui sont à la recherche de l'excellence.
Nous sommes deux sœurs en Allah et amies dans la vie de tous les jours. Notre objectif commun à travers ce podcast est d'inciter la communauté musulmane à la réflexion sur des sujets de notre quotidien, en se remettant tout simplement, ou non, en question, pour arriver à la destination finale, le plus haut degré du paradis, le Firdaus. Que ce soit dans le domaine professionnel, familial, social, personnel ou spirituel, nous allons balayer tous les sujets en lien avec notre quotidien.
Alors si vous êtes dans l'optique d'améliorer votre personne, votre pratique, d'exceller dans tout ce que vous entreprendrez vis-à-vis de notre magnifique et belle religion qui est l'islam, alors vous avez toqué à la bonne porte. On vous souhaite une agréable écoute, Inch'Allah, en espérant que cela puisse vous profiter. Barakallahu fikoum.
Qu'Allah vous couvre de sa bénédiction.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Pète c'est ici, bonjour.
Ça va pas? T'as osé?
Ouais. C'est toi,
on va encore une fois la pardonner. Non, sérieux, on va essayer d'être un peu plus sérieuse.
Allez,
parce que franchement, les derniers épisodes, on s'est beaucoup laissé aller.
Beaucoup trop.
Beaucoup trop. Enfin bref, on espère que vous portez bien, que votre semaine, elle s'est bien passée de notre côté. Comme d'habitude, hein, de toute façon, quand on est musulman, on doit toujours dire « Alhamdoulilah », quoi qu'il se passe. En plus, il fait beau, donc vraiment,
ça
rien
fait trop,
de mieux.
Trop plaisir.
Exactement. Bah, du coup, là, on se retrouve du coup pour la suite de l'épisode précédent qui, on espère, vous a plu, comme d'habitude, et surtout, vous a été profitable. En tout cas, nous, ça nous a permis vraiment de nous rappeler une fois de plus le statut honorable de la femme en islam.
Ouais.
Et ça nous pousse donc à être la meilleure femme musulmane possible. Il y a deux semaines, on vous avait dit que dans cet épisode, on allait parler des femmes de l'islam, de nos modèles et de nos défaillances comportementales, si on peut appeler ça comme ça, et qui font qu'on a du mal en fait à suivre ces modèles et à s'en inspirer correctement. Mais finalement, cet épisode traitera principalement de nos modèles, et pour ce qui est de nos défaillances, on en parlera légèrement en conclusion, puisque ces différents aspects seront abordés dans les thématiques concernées plus tard, Inch'Allah. On s'est dit en fait que ça allait être trop long sinon.
Ouais, déjà que là, l'épisode il s'annonce costaud.
Il s'annonce costaud, effectivement. Et du coup, dans cet épisode, on va découvrir ensemble quelques histoires des femmes de l'islam, de grandes figures de l'islam, de noms que l'on connaît ou pas. On verra quelle place aussi elles ont dans l'islam. On remarquera aussi que si on les prend comme modèle dans notre vie quotidienne, notre vie sera paix et sérénité, Inch'Allah. Plus on apprendra à les connaître, en fait, plus notre amour envers elles augmentera et on les prendra naturellement en fait pour modèle. Et pour en finir, on fera le focus sur une femme de l'islam et on entrera un peu plus dans les détails, du coup, concernant son histoire.
Du coup, je poursuis. Hein. D'abord, oui. On va commencer par le premier. Hein. Oui. On doit connaître nos modèles.
Oui.
Alors, il faut savoir qu'il est d'une importance capitale de connaître les modèles qu'Allah nous a donnés. En fait, l'être humain se construit en référence à des modèles. Mmh. Il les observe et il les imite. Et ça, en fait, c'est dès le plus jeune âge. Mmh. Et donc, en tant qu'humain, on est obligé de prendre exemple sur quelqu'un, d'avoir des références, des personnes à qui l'on voudrait ressembler. Et en fait, c'est tout à fait naturel. Ouais. Par contre, si la petite fille n'a pas d'autre choix que de suivre le modèle qu'elle a au quotidien, à savoir sa mère, genre nous avons le choix de suivre nos modèles.
Exactement.
Et alhamdoulilah, nous sommes des adultes. Hein, ou plutôt nous avons passé l'âge de la raison et sommes responsables de nos actions vis-à-vis d'Allah, alors il est primordial de faire attention à qui l'on prend comme modèle. Et en fait, suivre un modèle peut te conduire à ta réussite ou à ta perte. Mmh. Et par exemple, si on se dit musulmane, il est indispensable de prendre en modèle une personne elle-même musulmane qui aspire aux mêmes valeurs et principes que nous.
Ça va de soi.
Ouais, c'est ça. Et avant d'entamer mon cheminement spirituel, de commencer à apprendre la science religieuse, etc., je connaissais les femmes de l'islam que de nom. En fait, il était impossible pour moi de raconter leurs histoires car je ne connaissais absolument rien d'elles. Et donc, je ne les connaissais pas. Je prenais d'autres personnes comme exemple. Vous vous en doutez bien que c'était des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'islam. Et je me référais à des modèles qui avaient réussi, entre guillemets, professionnellement parlant, parce qu'avant, pour moi, c'était ça la réussite. Et l'apaisement spirituel dans tout ça, c'était clairement secondaire. Et encore une fois, j'ai juste été bêtement influencée par la société dans laquelle j'ai grandi. Et du coup, quand j'ai cheminé petit à petit dans la religion, je me suis rendu compte que les personnes que j'avais comme modèle n'avaient rien à voir avec les valeurs et les principes que l'islam nous transmettait. J'ai vu qu'Allah nous avait donné des modèles à suivre et que c'était juste moi qui étais ignorante en fait. Et du coup, quand j'ai découvert en profondeur les histoires de Khadija, Hajar, Soumaya, Maryam, radiallahu anha, j'étais émerveillée. J'ai tout de suite voulu leur ressembler et à travers leurs histoires, j'ai trouvé cette sakina, vraiment cette paix intérieure, cette sérénité. Et vraiment, je voulais ressentir la même chose tout le temps. Et mes autres modèles ne m'avaient jamais fait ressentir une paix intérieure. Hein. Genre, tout était mondain, il n'y avait vraiment rien de spirituel.
Absolument rien. Voilà. Ouais.
Et quand on pense aux femmes modèles de l'islam, on pense de suite aux quatre femmes promises au paradis. Mais qui sont-elles vraiment? Et pourquoi ont-elles ce privilège d'être promises au paradis? Pourquoi sont-elles si exceptionnelles? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour qu'Allah leur accorde ce privilège? Ce n'est certainement pas pour des acquisitions de biens matériels, ni de postes professionnels prisés, etc. Et du coup, on va citer un hadith qui, d'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a tracé quatre traits sur le sol, puis a dit « Savez-vous ce que c'est ?» Ils ont dit « Allah et son messager sont plus savants ». Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Les meilleures femmes du paradis sont Khadija bint Khuwaylid, Fatima bint Muhammad, Maryam bint Imran et Asiya bint Muzahim, la femme de Pharaon ». Et c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed. Bon bah du coup Maryam, je te laisse poursuivre. Tu vas nous parler d'une des quatre femmes promises au paradis. J'imagine que tu vas commencer par Maryam.
Tu devines bien.
Évidemment.
Commençons par Maryam. Que dire en fait de la mère de Aïssa, Jésus, alayhi salam, fille de parents nobles qui sont Imran, radiallahu anhu, d'ailleurs dédicace à la troisième sourate du Coran qui lui est dédiée, et Hanna, radiallahu anha, qui était une adoratrice fervente. Elle est de la descendance du prophète Daoud, David, alayhi salatu wassalam. Et quelle noble lignée. On a même un hadith du prophète, sallallahu alayhi wassalam, qui nous dit, c'est rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, « Tout nouveau-né est touché par le diable à la naissance. C'est pourquoi il se met à pleurer. Sauf Maryam et son fils. » Et Abu Huraira rajoute à ce propos, « Je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le maudit. » C'est rapporté par Bukhari. Maryam, en fait, elle est connue par tous les peuples du monde. Que ce soit par l'appellation de la Vierge, de Sainte Marie, Maryam chez nous, Santa Maria. Vraiment, en fait, rares, voire inexistants sont ceux qui ne la connaissent pas. C'est quasi impossible. Et elle est connue surtout pour être la femme élue au-dessus de toutes les femmes de son temps et qu'Allah a choisi pour être la mère d'un enfant qui naîtra sans père, en plus d'être un noble prophète, en plus d'être un enfant qui parlera aux gens dans le berceau en appelant à l'adoration d'Allah unique sans associé et qui accomplira d'autres multiples miracles plus grandioses les uns que les autres. Elle était connue pour être une adoratrice d'Allah hors pair. Vraiment une femme pieuse qui s'adonnait aux adorations jour comme nuit, qui était dévouée au service du temple dans lequel elle avait grandi. Et même le prophète de son temps, celui qui détenait sa garde, du coup, enviait sa piété. Zacharie, du coup, alayhi salam. Et la Vierge Marie, cette appellation, tout le monde en connaît l'origine. Mais évidemment, hein, comme on aime les caméras, on va quand même la rappeler hein, pour ne laisser personne sur le côté. Comme on l'a dit, elle a été élue par Allah pour porter Isa, alayhi salam. Et cet honneur, mais surtout cette épreuve, l'a mis face à beaucoup de difficultés qu'elle a surmontées comme personne de son temps. Des temps suivants, et de notre temps actuel d'ailleurs, personne n'aurait pu supporter cela. Et la nouvelle de sa grossesse s'était répandue. Elle a été évidemment faussement accusée d'avoir eu des rapports, d'avoir forniqué, vu qu'elle n'était pas mariée. Et du coup, face à toute cette situation, elle s'était retirée et isolée dans un lieu. Franchement, mettons-nous, mesdames, à sa place. Ne serait-ce que quelques secondes. S'être préservée par crainte de son Seigneur, porter l'enfant à la suite d'un miracle et être injustement accusée et calomniée par tout un peuple, mais qu'aurions-nous fait à sa place? Franchement, seul Allah est le plus savant, vraiment, parce que c'est une épreuve. Même en se l'imaginant, on peut même pas s'imaginer à sa place, vraiment. Et elle est restée, elle, tout de même humaine, la pauvre. Enfin, elle était tellement abattue qu'elle aurait préféré la mort à cette situation. Vraiment, tu m'étonnes, en fait.
Bah oui,
c'est tout de même un truc incroyable, mais vrai, ce qui lui est arrivé. Elle savait, en fait, qu'elle allait être jugée par les gens, malgré l'image véridique qu'elle renvoyait, l'image d'une adoratrice dévouée, descendante d'une famille noble et respectable. Subhanallah, en fait, ça me fait penser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu la révélation et qu'il est passé de tout d'un coup de Muhammad el-Amin, le digne de confiance, à Muhammad le menteur, le magicien, le charlatan, vraiment du tout ou rien. Et Mashallah, elle a beaucoup patienté et elle a subi des persécutions au moment où ce n'était en fait plus supportable. Il ne lui restait en fait plus qu'à placer toute sa confiance en Allah. Quand on entend Maryam, automatiquement on entend patience, pureté, tawakkul à Allah, vraiment confiance en Allah fois mille. Et courage, parce que, excusez-moi, être enceinte dans ces circonstances, accoucher seule dans un endroit reculé, porter un enfant dont les miracles se manifestent dès le berceau,
c'est pas facile.
Ouais,
c'est dur.
On s'imagine, c'est pas facile.
On peut même pas imaginer carrément.
Impossible. Franchement, on vous invite fortement à vous renseigner sur son histoire, car si ce n'est pas fait, il y a urgence. Vraiment, il y a urgence. Et c'est tout de même la seule femme de l'histoire de tous les temps qui est mentionné directement dans le Coran, en plus d'avoir une sourate carrément dédiée à elle. Mm-hmm. Vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point je me suis retenue de déballer sa vie. Tellement les aspects de sa vie sont admirables et inspirants, puissance mille, que c'était compliqué. Mais en tout cas, vraiment, qu'Allah l'agrée, soit satisfait d'elle et nous réunisse au paradis auprès d'elle. Vraiment.
Amine, amine, amine. Et d'ailleurs, en plus, c'est pour ça que tu as porté ce nom.
Exactement.
Mais tu hésitais aussi.
J'hésitais.
Vous verrez après.
On verra ça après.
Et du coup là, on va parler d'une femme noble, fidèle, pure. C'est la première à avoir embrassé l'islam après le prophète alayhi salam. La première à avoir écouté les versets du Coran récités par le prophète alayhi salam. C'est la première à avoir porté un enfant de Muhammad alayhi salam. Il s'agit bien évidemment de Khadija bint Khuwaylid, la première épouse du prophète alayhi salam et sa préférée.
J'ai voulu faire roulement tambour, mais tu m'en as empêché.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, enfin bref, tu peux continuer.
Dommage. Et j'ai un petit hadith à vous partager. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, Jibril alayhi salam est venu un jour au prophète alayhi salam. Il lui a dit « Ô messager d'Allah, voici Khadija qui vient à toi portant un récipient contenant un condiment, de la nourriture ou de l'eau. Quand elle arrivera, transmets-lui le salam de son seigneur ainsi que le mien et annonce-lui la bonne nouvelle d'un palais de perles au paradis, exempte de tout bruit et de toute fatigue. » Et c'est rapporté dans le Sahih de Bukhari. Méditons un petit peu sur ce hadith. Elle a reçu le salam de la part de son seigneur et de Jibril alayhi salam. Là, qui a reçu le salam de la part de son seigneur?
Quel honneur et quel privilège.
Quel honneur, mais quel privilège. C'est pas la voisine du coin.
Tu passeras le salam à ta mère.
Non, c'est pas ça.
C'est pas ça.
Tu vois? Et du coup, en fait, Khadija, elle a été un grand soutien pour notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, une épouse exemplaire. Notamment au moment où Mohammed a reçu la révélation. Et comme vous le savez ou pas, le prophète avait l'habitude de se retirer dans la grotte de Hira afin de méditer. Et c'est à ce moment-là que l'ange Jibril il s'est présenté à lui et lui a révélé les premiers versets. Et c'est cette nuit qu'il a reçu la révélation. Et le prophète, en fait, il a eu très 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 peur et il a couru rejoindre son épouse Khadija. Elle lui a ouvert la porte, mais elle n'a pas paniqué. Elle l'a laissé entrer, il s'est assis, elle a attendu qu'il se calme et le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a fait part de sa peur et elle a répondu « Allah ne t'abandonnera jamais ». Méditons encore une fois, un instant.
Un instant.
La sagesse qu'elle avait, en fait, elle ne l'a pas jugée. Elle n'a pas accablé, elle ne lui a pas posé un tas de questions, genre « Hey, raconte-moi ce que t'as vu, dis-moi ce qui se passe, mais t'es sérieux, pourquoi tu pleures, pourquoi t'es... » Non, pas du tout. Elle a tout simplement fait confiance à son mari, en fait, il faut qu'on en prenne de la graine. Soyons un havre de paix pour notre mari, afin qu'il ait confiance en nous et qu'il se réfugie, en fait, auprès de nous dans des moments de doute où il a peur, où, tu vois, il est angoissé.
Ouais.
À la suite de ça, elle l'a apaisé, elle l'a soutenu, elle lui a rappelé toutes ses qualités. Elle lui a dit « Tu maintiens les liens de parenté, tu assistes le nécessiteux, tu traites généreusement les invités, tu défends ce qui soutient les justes causes. » Elle a su trouver les bons mots. Le prophète alayhi salatu wassalam a été rassuré et a trouvé un repos et un confort auprès de sa femme. L'entièreté du récit, il est retranscrit dans le Sahih de Bukhari. Du coup, je vous invite vraiment...
Vivement,
oui, à aller voir ça si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, il a appelé les gens à l'islam. Il a été moqué, traité de menteur, tu sais, comme tu l'as dit, charlatan, etc. Mais Khadija, elle l'a toujours soutenu. Elle a cru en lui. Elle a été une épaule pour lui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est marié avec Khadija jusqu'à qu'elle décède. Elle n'a pas eu de co-épouse, en fait. Et c'est la mère de ses 6 enfants. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il aimait tellement Khadija que Aïcha, radiallahu anha, elle en était jalouse, alors qu'elle n'avait jamais vu, étant donné qu'elle était déjà décédée avant son mariage. Il vantait énormément ses mérites. Elle a occupé une grande place dans le cœur du prophète. Et du coup, vraiment, qu'Allah l'agrée et soit satisfait d'elle.
Amine.
Voilà, j'aime beaucoup cette femme.
Raison
c'est,
pour laquelle.
C'est mon modèle.
C'est ton modèle. Oui, clairement. On ne peut pas respirer. J'allais dire ton nom. Ouais. Mais on ne peut pas parler avec Khadija sans qu'elle nous parle de Khadija. Voilà. Vraiment, mais comme tu l'as dit, vraiment, qu'Allah soit satisfait d'elle. Pour la troisième histoire, on va vous parler d'une femme qui est un exemple pour les croyantes. Elle a abandonné toutes ses richesses de ce bas monde par amour pour Allah et pour avoir sa place au paradis. Elle est mentionnée dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme modèle la femme de Pharaon. Il est l'homme qui a atteint le plus haut, degré de la mécréance sur terre.
Oui.
Il s'agit évidemment de Asiya radiallahu anha. Ouais. Remettons-nous dans le contexte, juste un peu. Après avoir fait un rêve, interprété par ses conseillers, Pharaon décréta du coup la mise à mort de tous les nouveau-nés de sexe masculin. Parce que selon l'interprétation faite de son rêve, l'un d'entre eux allait bientôt le détrôner du coup. Suite à cette annonce, la mère du prophète Moussa alayhi salam, enceinte et terrifiée, ne savait pas en fait si elle attendait un garçon ou une fille. Et elle fut inspirée d'une idée, entre guillemets.
C'est Allah qui lui a...
Qui lui a du coup, évidemment, donné cette idée, ouais. Qui est rapportée dans la sourate 20. 28 Al-Qasas, les récits, verset 7.
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
Allaite ton enfant, et si tu crains pour lui, jette-le dans le flot. Ne t'attriste pas, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Franchement, c'est une très grosse épreuve qu'a vécue la mère de Moussa alayhi salam. Elle a fait preuve d'un grand tawakul, vraiment par la grâce d'Allah, qui lui a raffermi son cœur afin qu'elle puisse être patiente.
Ouais.
On va résumer vraiment en bref. Par la suite, c'est Asiya radiallahu anha qui a récupéré Moussa alayhi salam sur le fleuve. Et elle était d'ailleurs considérée comme étant sa mère adoptive. Et Asiya a embrassé l'islam et a cru en Moussa alayhi salam et en Allah, le Seigneur de l'univers. Et quand Pharaon a su ça, il était fou de rage.
Mmh.
Il l'a ramené dans le désert et lui a attaché les mains et les pieds et l'a torturé sous le soleil. Cependant, il est rapporté que les anges lui faisaient de l'ombre et à chaque fois que Pharaon se rapprochait d'elle pour la torturer, elle l'invoquait à Allah. On a justement l'invocation qu'elle a faite à Allah à la sourate 66 At-Tahrim, verset 11.
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre et sauve-moi des injustes. Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré alors en image la maison qu'il a construite au paradis. Et du coup, en fait, c'est sous cette action que Asiya est morte, laissant dans ce bas monde ses serviteurs, son palais, ses robes, ses parfums et tout ce qui suit. Et elle a tout laissé en fait par amour pour Allah. C'est vraiment en fait une grande démonstration de sa foi et de sa confiance en Allah.
Mm-hmm.
Elle s'est sacrifiée pour l'islam. Elle s'est détachée de ce bas monde. Elle n'a pas fait de ce bas monde son souci, à savoir le luxe, les vêtements, les sacs, ni son statut, parce qu'elle était tout de même la femme de Pharaon,
ouais.
L'homme le plus puissant de l'époque. Mm-hmm. Et elle a fait de sa foi sa priorité et ses soucis. Et bah... Évidemment, elle ressort gagnante.
Évidemment.
Donc vraiment, on apprend d'Asia que c'est un modèle pour nous les femmes, que ce bas monde n'a pas de valeur et qu'on est sur terre pour construire en fait notre demeure éternelle au paradis. On doit tout faire pour satisfaire notre Seigneur. Vraiment, qu'Allah l'agré soit satisfait d'elle et nous réunit au paradis auprès d'elle.
Amin.
Vraiment, son histoire est tellement admirative.
Exactement. Surtout pour les femmes, tu sais, parce que nous, on aime beaucoup les sacs, les trucs et tout. Et
ouais.
Elle, voilà, elle a vraiment tout laissé. Et elle était la femme de Pharaon.
Elle avait un statut.
Elle avait tout.
Elle avait un statut.
Et elle a tout laissé pour Allah. C'est vraiment magnifique. Et du coup, là, on va parler franchement d'une histoire qui... J'aime trop. J'aime vraiment trop cette femme.
Ouais.
Alors, comme vous l'avez vu, on a aussi d'autres femmes exceptionnelles qui ont marqué l'islam. Nous allons d'abord parler de Hajar. Qui était Hajar, radiallahu anha? Hajar était l'épouse de Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, et aussi la mère de Ismaïl, alayhi salam.
Mm.
Je vous la fais courte. Moi, l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam, c'est ma meilleure histoire de tous les prophètes. Bref. L'histoire de Hajar, en fait, elle nous apprend le tawakkul, la confiance en Allah et son grand courage lors des moments difficiles. Et un de ses actes est répété jusqu'à aujourd'hui par tous les musulmans qui accomplissent le pèlerinage à la Mecque en mémoire de ce qu'elle a enduré.
Mmh.
Du coup, le prophète Ibrahim alayhi salam a eu pour ordre de laisser son épouse Hajar et son nourrisson Ismaïl, qui allaitait encore dans le désert d'Arabie, seul et sans provision. Le désert d'Arabie, on voyait plus de 40 degrés et tout. Voilà. Et Hajar a demandé à son époux pourquoi nous laisses-tu ici ? Ibrahim alayhi salam, il ne lui a pas répondu. Et là, attention, méditons attentivement sur la réponse de Hajar, qui est une traduction littérale du tawakkul à Allah, du coup la confiance en Allah. Elle a répondu, je cite, « Si c'est ton Seigneur qui ordonne ceci, alors il ne nous abandonnera pas. »
Wow. Takbir.
Allahu Akbar.
Ah oui.
Vraiment.
Ah oui.
Non mais c'est ouais, incroyable, ouais, tu vois. Ouais. Et du coup, il est évident que la quasi-majorité d'entre nous, bah, sauf à celle à qui Allah a fait miséricorde, n'aurait pas réagi de la même manière. Et pourtant, Hajar a sûrement eu peur pour elle, peur pour son bébé, mais elle se rappelle en fait qu'Allah n'abandonnera pas son serviteur. Mm. Et c'est ça en fait qui est beau. Et puis, il est arrivé à un moment où elle n'avait plus d'eau pour elle et son fils. Et c'est à ce moment-là qu'elle a fait les fameux 7 allers-retours entre le mont Safa et le mont Marwa pour trouver de l'eau. Elle a fait preuve d'un grand courage et du coup, je la fais courte, hein. Mais elle a fini par avoir de l'eau que l'on appelle l'eau de Zamzam, vous connaissez. Et c'est à ce moment-là que l'ange Jibril alayhi salam lui dit « Ne redoutez aucun danger. » Ici s'élèvera le temple d'Allah qui sera construit par cet enfant et son père. Allah n'abandonne pas les siens. Et plus tard, du coup, Ibrahim alayhi salam ainsi que son fils, bah, ils ont construit la Kaaba.
Ouais.
C'est pour ça en fait que chaque année, des millions de pèlerins viennent accomplir le Hajj et ils reproduisent en fait les pas de notre mère Hajar lors du Hajj. Comment ne pas prendre cette femme comme modèle ? Elle a marqué l'histoire de l'islam et en fait, on doit connaître son nom que son histoire.
Ouais.
Vraiment, qu'Allah soit satisfait d'elle.
Amin.
Je suis trop admirative de son histoire parce qu'en fait, jusqu'à un moment, là, c'est bientôt le Hajj.
Ouais.
C'est dans quelques... C'est à la fin du mois, là.
Ouais.
Ouais, le mois d'août de l'Hijjah, c'est bientôt. Et tu te dis que des millions de pèlerins viennent et font le pas de Safa et Marwa en hommage à Hajar.
Et depuis combien d'années ?
Et depuis combien d'années ?
Non, combien de siècles ?
Oui, combien de siècles ?
Combien de siècles ?
Et pareil, tu vois, son fils ainsi que son mari, ils ont construit la Kaaba.
C'est magnifique. Parlons maintenant de la cinquième histoire. On va vous parler d'une femme qui vous est peut-être inconnue. Il s'agit de Nusayba bint Ka'b. Cette femme, elle a la particularité d'avoir participé à la deuxième grande bataille de l'islam, la bataille d'Uhud, et qui confrontait les musulmans contre les polythéistes de la Mecque. Et en fait, au début de cette bataille, les musulmans, ils avaient le dessus. Et tout comme les autres combattantes, elle donnait à boire aux combattants et soignait les blessés, etc. Mais en fait, cette domination, elle ne fit pas long feu. À la vue, en fait, de leur avantage au combat et dans une joie anticipée, des archers quittèrent en fait leur poste malgré les consignes inverses qui étaient de rester malgré un quelconque retournement de situation. Et en fait, cette désorganisation, elle fut fatale.
Ouais.
Et pendant ce temps-là, Nusayba, elle avança avec audace. Imaginez-vous, s'il vous plaît, une guerrière. Elle avança avec audace, elle prit son sabre et son arc pour rejoindre le peu d'hommes qui résistaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et du coup faisaient de leur propre corps des boucliers humains pour le protéger des flèches ennemies. Et en fait, à chaque fois qu'elle sentait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en danger, elle le défendait avec hargne au point où même lui remarqua son héroïsme et témoigna plus tard à son sujet en disant « Je ne me retournais à droite ou à gauche sans remarquer qu'elle combattait pour me défendre.
Wow. »
Asseyons-nous deux minutes. Non, mais...
Les relous, toi.
Oups. Observons le courage et la bravoure de cette femme, s'il vous plaît. Mais qui, à l'heure d'aujourd'hui, peut faire preuve d'une telle dévotion et montrer un tel amour envers Allah et son messager à ce niveau?
Mais vraiment qu'Allah l'agrée, parce qu'en fait, si vous savez pas, mais la bataille de Uhud, c'est la deuxième plus grande bataille de l'islam, et c'est la bataille que les musulmans ont perdue.
Ouais.
Et c'est-à-dire que si les polythéistes avaient encore plus pris le devant, avaient encore plus tué de musulmans, à savoir les grandes têtes de l'islam, genre les Abu Bakr, les Omar, etc.,
des gars,
voilà,
des gars.
Si elle n'était pas là aussi, tu vois, avec
son arc et sabre
et tout, ça aurait pu être fatal. Le message de l'islam n'aurait pu ne pas être propagé.
Exactement.
Du coup, c'est remarquable. Faut remercier Nusayba.
Franchement, vraiment qu'Allah l'agrée.
Alors à présent, nous allons parler d'une autre femme qui a marqué l'histoire de l'islam. C'était la mère du compagnon Amar. Qu'Allah les agrée. Elle était esclave et c'est la première martyre de l'islam. Elle se prénomme Soumaïa, radiallahu anha. Son histoire, en fait, elle nous démontre la grande foi en Allah et qu'elle a grandement été éprouvée.
Ouais.
Ouvrez vos oreilles.
Ouvrez.
En fait, cette femme, elle faisait partie des premiers groupes de croyants à adhérer à l'islam publiquement, à la Mecque, dont son fils Amar, son mari Yassir. Il y avait aussi Abu Bakr al-Siddiq, Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu. Et c'était les premiers à avoir renié les statues que les Mekwa idolâtraient. Et comme ils étaient esclaves, ils n'avaient personne en fait pour les protéger. Bien que Abu Bakr, il avait libéré énormément d'esclaves. Mm. Et du coup, Soumaïa, Amar, Yassir, Bilal ont été torturés, fouettés, privés de boissons, de nourriture. Ils étaient exposés à un grand soleil. Tout ça parce qu'ils ont accepté le message de l'islam et reconnu Mohammed comme messager d'Allah. Et elle a pu nous montrer son amour envers Allah et son prophète sans jamais renoncer une seule fois. Elle s'est vraiment fait torturer. Hein.
Ouais, non, c'est sans vanne là.
Oui.
Il n'y a aucune exagération.
Oui.
Fouetter.
Torturer.
Et battre. C'est
privé
c'est...
d'eau. En plus, dans les déserts.
Soleil.
Comme ça, soleil. Non, c'est franchement. Et du coup, le prophète, il avait l'habitude d'aller là où il se faisait torturer, louant leur courage en disant « Soyez patients, la famille de Yassir. En vérité, votre lieu de rencontre sera le paradis.
Wow. »
Du coup, c'était beaucoup pour les réconforter.
Mm.
Et son fils, Amar, n'a pas pu supporter la torture. Sous la contrainte, il a renié l'islam. Mais il a uniquement fait ça pour être libéré des souffrances physiques qu'il endurait. Et il n'a pas apostasié, hein, et qu'Allah l'agré. Mm. Et il s'en est voulu, mais vraiment, il s'en est vraiment voulu. Et il est parti en expliquer au prophète, ce qu'il a fait.
Mm.
Et du coup, ce verset a été révélé. C'est dans la sourate 16, An-Nahl, verset 106.
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de sérénité, de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible.
Ouais.
Du coup, Soumaïa, elle va mourir martyre et c'est la première qui est morte pour le message de l'islam. Et encore une fois, c'est un nom qui doit rester dans notre mémoire, vraiment gravé dans notre mémoire, et on doit connaître son histoire.
Surtout.
Et, et tirer des enseignements de son histoire. Elle a su se montrer endurante, patiente face aux épreuves. Elle a vu son fils, son époux se faire torturer matin, midi et soir. J'imagine même pas en fait comment ça a dû être douloureux pour une mère de voir ça, tu vois. Et elle est la parfaite illustration du verset 2 de la sourate Al-Ankabut.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Et pourtant, sa foi en elle et d'autres sont incomparables à la nôtre. Raison pour laquelle, en fait, plus on a la foi et plus on est éprouvé. Et du coup, prenons cette histoire comme un enseignement. C'est aussi en partie grâce à elle que le message de l'islam a pu se propager.
Ouais.
Parce que tu vois, elle n'a pas renoncé. Et
exactement.
Tout. Mais vraiment, qu'Allah l'agré et fasse qu'on se retrouve aussi avec elle au paradis.
Et qu'on sente, ne serait-ce que le plus bas de son propre rang.
Amin.
Vraiment.
Amin.
Alors, à présent, ce n'était pas prévu, mais on va finir par vous parler d'une dernière femme de l'islam avant de passer au focus, comme on vous l'a dit dans l'introduction, sur une des femmes illustres de l'histoire de l'islam, plus en détail. Et du coup, on va vous parler d'une femme qui fait partie des personnes, même pas des femmes, mais des personnes les plus importantes de l'islam. On vous avoue, on ne voulait pas forcément l'aborder au début parce qu'en fait, on s'était dit que bon, tout le monde la connaît, à savoir être une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être la fille de son meilleur ami Abu Bakr as-Siddiq, d'être une femme plus jeune du coup que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Mais en fait, après mûre réflexion et concertation du coup avec les membres de l'équipe, oui, on se croit sur Koh-Lanta, hein. Mais en fait, on s'est dit... Reste concentré.
En fait, c'est que je me suis dit, la même chose, je me suis dit, mais pourquoi elle parle comme ça? Mais genre, dis.
Et en fait, on s'était dit, en fait, mais qu'il était impossible de ne pas parler d'elle. Même si l'épisode, il fait 2 heures. Ouais, ça y est.
Ouais.
On n'en a plus rien à faire. Ça y est.
On dit ça à chaque épisode.
Même si l'épisode, il fait 2 heures, il est impossible de ne pas parler d'elle.
Ouais.
D'autant plus, en fait, que le rôle qu'elle a eu dans la transmission et la propagation de l'islam est immense. C'est une ref. Il s'agit bien évidemment de Aïcha bint Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anha et radiallahu anhu. On va essayer de la faire courte, vraiment, et on vous invite vivement à lire son histoire, qui est admirative. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, Khadija, j'ai longuement hésité à me donner comme nom d'emprunt, entre guillemets, Aïcha ou Mariam, du coup. Mais il a fallu faire un choix. Hein. Mais ouais, clairement, pour vous dire à quel point c'est un modèle.
Sur Aïcha,
ah après, oui, j'étais butée dessus.
Je
hein.
crois que c'est la veille, t'as dit non, c'est Mariam et tout.
C'est vrai. Mais vraiment, en fait, tellement, en fait, elle fait partie de mes modèles principaux, vraiment avec Mariam, que vous comprenez le problème, la problématique qui se posait.
Exactement.
N'est-ce pas? Donc vraiment, parlons de notre mère Aïcha, l'épouse préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La seule qui peut se vanter du mérite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des révélations du Coran dans son propre domicile, par rapport à toutes ses autres femmes. En plus d'avoir d'excellents mérites en tant que fille, épouse et tout autre statut qu'elle occupait en fait. Celle qui a surmonté l'épreuve de la calomnie à son sujet et qui a été innocentée par Allah lui-même dans le Coran.
Ouais.
Grand moment dans l'histoire de l'islam. Celle qui a vécu d'autres épreuves douloureuses comme la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa mort, d'ailleurs, il a été enterré chez elle dans sa chambre, à l'endroit même où il est décédé. La mort de son père, Abu Bakr, et toutes les autres épreuves durant les autres califats suivants, elle a le mérite d'être l'un des plus grands professeurs de l'islam. Elle a rapporté un nombre important de hadiths. Et elle fait partie d'ailleurs du top 5 des personnes de tout temps ayant rapporté le plus de hadiths.
Ouais,
à savoir plus de 2200 hadiths rapportés, subhanallah. Et durant toutes ces années, en fait, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle tira énormément de profit. Déjà de par sa grande mémoire, sa capacité d'observation inhabituelle.
Elle était jeune.
Exactement.
C'est ça.
Et elle avait d'excellentes connaissances en fait profondes sur le Coran et la Sunna. Et ce qui fut d'elle une autorité très importante de la loi islamique. Et tout au long de sa vie en fait, elle aidait les gens à trouver des solutions à leurs problèmes. Et elle avait une méthode en fait d'enseignement qui était particulière à elle, produisant du coup des étudiants qui excellaient, poussant même des compagnons chefs à se tourner vers elle pour régler des problèmes difficiles.
C'est vrai.
Des points difficiles, des personnes de toutes parties du monde envoyaient des demandes par écrit pour avoir des réponses à toutes sortes de questions. Évidemment, elle y répondait lorsqu'elle avait la réponse, avec toute l'humilité d'un grand savant, faisant, grâce à elle et d'autres compagnons, de Médine l'un des... Pardon, pas l'un, le plus grand centre d'études au monde.
Mmh.
Et c'est clairement en fait une adepte de la vérité, tout comme son père d'ailleurs, on peut voir, As-Siddiq, le véridique. Elle a aussi d'ailleurs hérité de ce titre, elle était d'une extrême gentillesse. On disait même qu'elle était plus gentille avec ses élèves que leur mère, leur propre mère était avec eux. Et elle était d'une grande politesse. Et pour en finir, du coup, avec la mère des croyants, à travers sa vie, on peut voir, en fait, à quel degré s'élève une femme musulmane de par l'islam, tout en gardant sa pureté et sa douceur. C'était une femme pieuse, rigoureuse sur les règles de l'islam, les actes d'adoration et surérogatoire, qui ne prêtait pas attention au bien de ce bas monde et qui a fait du principal objectif de sa vie adorer Allah, son messager, sa religion, tout en la transmettant et en y tenant, subhanallah. Vraiment qu'Allah soit satisfait d'elle et nous réunisse au paradis auprès d'elle. Là, je pense qu'on a dit 1% des mérites.
Oui, et en plus, on voit beaucoup que tu l'aimes beaucoup.
C'est abusé.
De toute façon, on doit tous l'aimer et tout. C'est vraiment une grande femme.
Vraiment.
Allah l'agré.
Amin. Donc, du coup, on a fini de vous faire part de quelques exemples de femmes illustres de l'islam. Maintenant, je vais laisser Khadija nous faire le focus, enfin débuter le focus sur la femme choisie.
Avec plaisir, parce que moi aussi j'ai longuement hésité entre
Khadija
et cette femme-là.
J'avais oublié.
Tu te souviens.
Ouais, tout à fait.
Mais bref, du coup, maintenant que qu'on le connaît, les caractéristiques et le comportement des femmes nobles qui ont marqué l'islam, on a décidé de faire un focus sur l'une d'entre elles, que l'on n'a pas encore citée, mais qui fait partie des 4 femmes promises au paradis. Et il s'agit bien évidemment de Fatima Zahra bint Muhammad Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, on a choisi Fatima car on trouve que, contrairement aux autres femmes comme Khadija, Asiya, Aïcha, Mariam, on connaît son prénom mais pas forcément son histoire, et pour la plupart en fait, je pense, pour la plupart. Et Fatima était une fille, une mère, une épouse, une sœur, une belle-fille.
Ouais,
en fait, son belle-fille. Histoire peut donc être bénéfique à tous. Mm. Du coup, qui parmi nous n'en vit pas l'enfance de Fatima Zahra?
Bonne question.
Et ouais, son père est le meilleur des hommes et sa mère est Khadija. Elle est née à La Mecque quelques temps avant la révélation et elle a été éduquée et grandie dans un environnement affectif. Et en effet, le milieu familial joue un rôle déterminant sur la formation de la personnalité de l'enfant dès sa naissance. Mais ce n'est pas une fatalité en soi. On peut avoir une enfance compliquée et tout avec beaucoup d'épreuves et Allahumma barik, être une bonne personne, pieuse et épanouie.
Oui,
et
j'ai pas,
on le disait lors de l'épisode précédent que l'enfance c'est un moment clé. Et du coup, elle a vu sa mère Khadija être une bonne épouse pour son père, elle a vu qu'elle l'a toujours soutenue, elle l'a aimée d'un amour inconditionnel. Et du coup, sa propre mère, Khadija, est un exemple. Mm. Et avant sa naissance, sa belle fratrie était déjà très soudée, ils vivaient en parfaite harmonie. Et étant la dernière, elle a été cajolée par ses frères et sœurs, par sa famille. Et c'est dans cette ambiance de sérénité qu'elle est venue au monde.
Ouais, en plus, on le connaît le rôle des derniers dans la famille. Hein.
Oui,
on connaît leur statut.
Elle est l'aînée et moi, je suis la dernière.
Ouais, on connaît le statut de cela, vraiment. Et subhanallah, Fatima, son visage était celui qui ressemblait le plus au prophète. Et d'ailleurs, il y a un hadith d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu qui rapporte que Salam a dit Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était celle qui avait le visage qui ressemble le plus à son père.
Oui.
Elle lui ressemblait tellement qu'elle était nommée la mère de son propre père. C'était la seule qui lui ressemblait, et pas que dans la ressemblance physique, aussi dans le caractère, la guidance et la conduite. Quand elle visitait son père, il se mettait immédiatement debout, il l'embrassait le front, il lui laissait la place, et de la même façon, quand il allait la voir, elle se levait, elle l'embrassait, elle lui cédait sa place. En fait, ils avaient vraiment une relation père-fille fusionnelle, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait énormément et disait même, celui qui lui fait du mal me l'aura fait aussi. Et il disait aussi, Fatima est une partie de moi. Il lui disait même, oh Fatima, demande-moi ce que tu veux de ce que je détiens, mais je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Franchement, elle a été patiente face au décès de sa mère, malgré son jeune âge, et qui a d'ailleurs été la première épreuve qu'on peut observer et en tirer des mérites.
Mmh.
Et un jour, alors qu'elle était petite, les Mécois ont agressé physiquement son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en déversant sur lui des déchets alors qu'il était en prosternation devant la Kaaba. Fatima, elle a accouru vers lui en pleurant, elle a retiré les ordures qui étaient sur lui, et une fois sa prière achevée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassura Fatima en lui rappelant qu'Allah assistera son père et accordera la victoire à son père.
Mmh.
Et petite anecdote, lorsqu'il a fini sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a fait des doigts contre les Mécois qui avaient déversé du coup les déchets sur lui et qui étaient présents. « Oh Allah, occupe-toi d'un tel et d'un tel et d'un tel » en les nommant par leur nom. Et Ibn Mas'ud, un compagnon, rapporte que le jour de la bataille de Badr, tous ceux contre qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une doua sont morts au combat. C'est magnifique.
Ouais, c'était la petite parenthèse.
Et du coup, pour continuer sur Fatima, elle a émigré vers Médine après son père avec Saouda radiallahu anha, qui est une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus tard, elle épousa le grand imam Ali ibn Abu Talib, un des promis au paradis, le cousin du prophète qui a grandi auprès de lui depuis son plus jeune âge. Et Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc sa belle-mère, a même dit à ce sujet, je n'ai jamais vu un meilleur mariage que celui-là.
Laisse tomber, mais c'est trop ça. Et tous les gens, en fait, de son entourage, c'était les meilleurs,
ouais,
les plus nobles, et ils ont une grande relation avec le meilleur des hommes. Mm. Et en fait, de son union avec Ali, radiallahu anhu, elle fut la mère des meilleurs enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. Et c'est des personnages clés de l'histoire de l'islam. C'est les seuls petits-enfants du prophète alayhi salatu wassalam.
Ouais.
Et ils passaient beaucoup de temps chez eux, et elle a été éduquée, réconfortée et raffermie par lui.
Mm.
Et lorsqu'il est tombé malade, elle était très triste. Et évidemment, déjà que c'était le prophète, alayhi salam, en plus d'être son père, en plus d'avoir une relation fusionnelle, comme elle vous l'a dit tout à l'heure, père-fille, elle allait lui rendre visite tous les jours. Et quand son état s'est aggravé, et elle a grave pleuré. Et le dernier jour avant sa mort, le prophète, alayhi salam, avait réuni tous les membres de sa famille chez lui, dont sa fille, hein, Fatima, et son mari, ses enfants. Et elle pleurait, en fait. Elle pleurait grave de tristesse, ouais, encore une fois. Et quand il a vu sa fille dans cet état-là, il lui a murmuré à l'oreille. Ça lui a fait pleurer davantage. Il lui a dit un autre truc aussi sur une autre oreille. Et ça l'a fait sourire. Et Aïcha, radiallahu anha, par la suite, elle demanda ce que son mari lui avait dit. Et elle lui répondit qu'elle ne peut pas dévoiler le secret de son père. C'est après sa mort qu'on a découvert en fait ce qu'elle lui avait dit.
Mmh.
Et on ne peut résister à l'idée de vous retranscrire,
ouais,
le hadith,
ouais,
rapporté authentiquement par l'imam al-Bukhari. Après la mort du prophète, du coup, Aïcha questionna à nouveau Fatima sur les raisons de son comportement. Et là, elle lui expliqua, l'envoyé d'Allah me confia ceci. Chaque année, l'ange Jibril m'enseigne le Coran une fois, mais cette année, il le fit à deux reprises. S'il agit ainsi, c'est que ma mort doit être proche et toi, Fatima, tu seras le premier membre de ma famille à me suivre dans la mort. J'ai alors pleuré. N'es-tu pas contente, poursuivit le prophète, de devenir la reine des femmes du paradis ou, suivant une autre version, la reine des femmes des croyants? Et alors, j'ai ri.
C'est vraiment magnifique. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, quelques mois après cette situation qui s'est passée, la prophétie de son père s'est réalisée, évidemment, et elle l'a rejoint. Pourquoi on a choisi en fait Fatima pour vous illustrer la place honorable de la femme en islam? Tout simplement parce qu'en fait on a estimé que c'est celle qui, à notre connaissance, est un exemple dans tous les rôles qu'elle occupe. Attention, hein, pas en dépit des autres, mais on a pu le voir déjà en tant que fille, subhanallah, de par sa relation avec son père, mais aussi l'épreuve qu'elle a eue par la perte de sa mère et en tant qu'épouse. En tant que mère, on a pu voir, notons que c'est la seule descendance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a perduré. C'est la seule qui a eu des enfants qui ont eu une descendance. Même en tant que belle-fille, car on peut remarquer quand on apprend son histoire qu'elle avait de très bonnes relations avec sa belle-mère Aïcha et ses autres belles-mères d'ailleurs, qui n'hésitaient pas d'ailleurs à passer par elle lorsqu'elles avaient des requêtes à faire à leur mari. Et on voit plusieurs qualités en fait qu'elle avait et que l'on doit adopter évidemment, comme la sagesse, la patience, la loyauté, l'attention, sa préoccupation envers les membres de sa famille. Mm-hmm. C'était clairement en fait une personne de confiance. Et on le voit aussi lorsqu'elle a gardé le secret de son père, subhanallah. Et pour en finir, vraiment, c'était une fervente adoratrice d'Allah, dont son principal souci était de vivre pour transmettre et soutenir le message de l'islam, encore une fois, dès son plus jeune âge. Vraiment, sa vie est un exemple pour nous. Comme on vous l'a dit, elle a pu porter toutes les casquettes, mashallah.
Vraiment, qu'Allah l'agrée, vraiment, c'est waouh. Toutes ces histoires sont juste magnifiques.
Vraiment magnifiques.
Bon, du coup, là, on va vous faire le fameux questionnement. Hein. On va se poser une petite série de questions. Vous avez l'habitude, maman, avec nous. Mm-hmm. Du coup, première question. Pose-toi et demande-toi qu'est-ce que tu prends comme modèle. Est-ce que ce sont des femmes de la communauté ou des femmes de ton entourage professionnel ou des comptes Instagram que tu suis pour leur beauté, leur prestance, leur richesse, leur acquisition ou autre? Des fois, en fait, on se dit oui, non, on ne suit pas comme modèle, mais on est quand même influencé.
On est influencé.
Par un type de personne, ouais. Voyez-vous.
On a déjà parlé du conformisme dans un épisode.
Oui. Je sais plus si c'est dans lequel. Comme ça, du conformisme.
Mais c'est une blague, tu me juges.
Ouais.
Ok.
Bon, pardon.
On réglera ça plus tard. D'accord. Tu peux continuer.
Et du coup, je disais. Voilà.
Non, allez, reconcentrons-nous. Tu étais en train de dire que est-ce que c'était des femmes de la communauté ou des femmes qu'on suit sur Instagram pour leur prestance et tout, voilà.
Et du coup, c'est ça que je voulais dire. Combien de femmes de l'islam, genre tu pourrais citer, dont tu pourrais nous raconter l'histoire? Combien de femmes de prophètes que tu connais? Combien de femmes qui ont vécu à l'époque du prophète? Que tu connais, des compagnons, etc. Mmh. Et les femmes que tu prends pour modèle, est-ce qu'elles aspirent aux valeurs et principes de l'islam? Les femmes que tu prends en modèle, t'apportent-elles un plus spirituellement parlant ou pas du tout? Pourquoi est-ce que tu veux leur ressembler? Genre, pour quelle raison est-ce que tu veux leur ressembler? Et après avoir répondu aux questions précédentes, demande-toi si les modèles que tu suis vont t'apporter du bien ici-bas ou dans l'au-delà. Mmh. Et on ne dit absolument pas en fait qu'on doit prendre comme exemple que des femmes de l'islam et pas des femmes de notre entourage, etc., de notre temps. En fait, on doit s'assurer que les femmes que l'on prend comme exemple, bah, que ce soit pour de bonnes raisons et en accord avec les principes et les valeurs de l'islam. Par exemple, moi, ma mère, bah, je la vois comme un modèle. Genre, c'est mon exemple. Toujours, je lui dis et tout en plus. Et j'espère suivre ses traces, Inch'Allah. Et pourtant, genre, c'est pas une femme de l'islam, entre guillemets. Genre, elle est pas connue. Voilà, c'est comme les Aïcha, etc.
Oui, ouais.
Bah, voilà, c'est ma mère, c'est tout.
Oui. Et d'ailleurs, en plus, on a un hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui a dit qu'un homme a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand aura lieu l'heure? Et du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et qu'as-tu préparé pour elle? L'homme a dit: je n'ai pas préparé pour elle beaucoup de prières, de jeûnes ou d'aumônes, mais certes, j'aime Allah et son prophète. Et du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu es avec ceux que tu as aimés. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Vraiment, en fait, n'oublions pas que le jour de la résurrection, nous serons ressuscités avec ceux qu'on a aimés ici-bas.
Ouais.
Donc, vraiment, en fait, faisons attention à qui nous aimons et suivons pour exemple. En fait, c'est vraiment à nos risques et périls.
Ouais.
C'est tes conséquences, c'est tes choix, et puis c'est ton problème.
C'est dur, c'est pas facile.
Donc, on a enfin fini cet épisode.
Ouais, on vraiment. Conclut.
On conclut, vraiment. C'est la course au temps. Ouais. Vraiment. En tout cas, vraiment, on espère que cet épisode, comme on vous l'a dit en introduction, on voulait, en plus de ce qui a été présenté, souligner les valeurs occidentales en contradiction du coup avec les valeurs de l'islam par les principes de base mais aussi par les exemples de femmes qui ont vécu avant nous en plus d'avoir vécu des épreuves beaucoup plus dures que les nôtres. Vraiment, en fait, l'islam n'est pas compliqué. C'est une religion de juste milieu.
Oui.
En fait, il s'agirait juste de revoir nos principes et valeurs occidentales sur quoi nous basons notre vie en désaccord avec celles de l'islam, en fait. Et comme nous dit le hadith d'après Ali, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il n'y a point d'obéissance dans l'ordre d'accomplir un péché. L'obéissance est uniquement due lorsqu'on ordonne d'accomplir quelque chose de convenable. Et c'est rapporté par Al-Bukhari.
C'est exactement ça. Et justement, en fait, on se doit de faire preuve de courage, de ferveur, ténacité surtout, à notre amour envers Allah en adoptant toutes les qualités de la femme musulmane qu'on vous a énumérées dans la partie 1. Et on se doit de faire des règles de l'islam, les règles de nos vies, et ne pas sélectionner selon la saison, notre situation, notre destination vacancière, etc.
Oui, bah oui.
Et d'ailleurs, on fera un épisode sur les vacances d'été. Restez branchés.
Restez branchés. Et justement, c'est pour ça en fait qu'on doit faire en sorte d'avoir les meilleures relations possibles, comme vu à la partie 1, selon les préceptes de l'islam, et ajouter des principes occidentaux seulement s'ils sont en adéquation. Et du coup, à côté, rejeter les valeurs occidentales actuelles qui ne s'emboîtent pas à l'islam, comme la course aux richesses, l'individualisme, l'acquisition de biens par tout moyen, l'enfant roi, etc.
C'est ça,
tu vois qu'il y a des concepts comme Super Nanny et Pascal le grand frère qui existent.
Ouais.
Voilà.
C'est pas facile, mais bon, du coup, comme on vous disait dans la partie 1, on vous parlait du comportement que la musulmane doit adopter face à plusieurs contextes, dont sa relation avec Allah, qui est la principale à entretenir, et qui passe pour toute autre relation. Et si notre relation avec Allah est carrée, tout le reste le sera.
Ouais. Et comme on vous l'a dit, notre mentalité d'avant était quasi totalement basée sur les valeurs occidentales et modernistes. Se rendre compte de cela et agir sont deux choses différentes. C'est bien beau en fait de vouloir changer, mais il faut agir pour cela, en prenant bien en compte tous les aspects sur lesquels il faut faire le comparatif et voir s'il y a un problème à résoudre, atténuer, bannir ou autre mesure corrective. On nous fait aussi croire en fait qu'allier la jeunesse et l'islam, c'est peine perdue, alors que juste à travers l'histoire de Fatima Zahra, on a la preuve que c'est tout à fait possible, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est le genre de réflexion en fait qu'on peut avoir quand on décide de se couvrir ou de se marier très jeune, d'avoir des enfants jeunes aussi, et tant d'autres choix de vie en fait. On ne doit pas oublier que tout est une épreuve. Vivre dans un pays non musulman en tant que musulman est une épreuve, même si ce n'est rien comparé aux épreuves évidemment des prophètes et des compagnons. Mais on sera récompensé pour s'être accroché à notre religion, et encore plus car les circonstances n'étaient pas favorables.
C'est ça, et vraiment en plus c'est une sagesse infinie de la part d'Allah d'être une femme musulmane. Soyons loyales envers lui en priorité, et pas envers le gouvernement ou l'employeur ou je ne sais qui en fait, non, des autres autorités de ce bas monde.
Ouais.
Vraiment, on fait vraiment pour Allah. On doit être fier de notre identité, on doit être fier de notre religion.
Mais c'est
on
ça.
On ne doit pas marcher tête baissée.
Soyons fiers. En fait, qu'on vienne de France ou de Colombie, toutes nos mentalités devraient être les mêmes en fait. Malgré l'éducation que nous avons eue, l'islam elle est universelle, on ne vous apprend rien. Ce n'est pas la religion des Arabes ou qui peut être pratiquée qu'en Arabie Saoudite. Donc tout principe qui s'y rattache est rattaché à l'islam et pas un pays ou un lieu.
Par exemple en Indonésie, c'est le pays avec le plus grand nombre de musulmans et pourtant il n'y a pas de prophète qui est descendu
là-bas. Exactement, c'est ça. Et on n'est peut-être pas tous adultes de par l'âge, mais par la conscience humaine et responsable qu'Allah nous a accordée, nous devons nous instruire d'une part, puis créer et façonner notre identité de femme musulmane. Vraiment, on vous invite à vous renseigner davantage sur les femmes de l'islam et tout ce qui tourne autour, vraiment. On vous conseille aussi un livre qui recueille différentes histoires, histoires merveilleuses. On vous le mettra en barre d'informations. Et en tout cas, voilà, c'est ce qu'on a voulu vous transmettre par cet épisode.
C'est la fin de ce très très long épisode. Encore une fois, nous sommes désolés. Tout le temps, on pense qu'on va faire
court,
jamais.
Jamais.
On espère comme d'habitude qu'il vous a été bénéfique et utile. Vraiment, le but de cet épisode est vraiment que l'on ait envie d'apprendre à connaître toutes ces femmes, d'aller faire des recherches sur elles, et on a essayé d'aller à l'essentiel. En gros, c'est comme si on vous mettait un peu l'eau à la bouche pour vous pousser à aller faire plus de recherches.
C'est ça.
On parle vraiment pour celles qui ne les connaissent pas et celles qui les connaissent déjà, c'est très bien, alhamdoulilah. Il faut juste se faire des mises à jour d'informations et qu'on les prenne pour modèle, qu'on approfondisse encore plus nos connaissances, car on ne finit jamais d'apprendre.
Jamais.
Et du coup, si vous avez été très attentif, vous remarquerez qu'on n'a pas parlé de la tenue vestimentaire de la femme musulmane, alors que c'est un sujet qui est censé être indispensable dans cet épisode.
Évidemment.
C'était volontaire, car nous aborderons tout ça lors du prochain épisode, Inch'Allah, qui portera sur le voile. L'épisode tant demandé, ça y est, il va enfin sortir, Inch'Allah.
Ça arrive.
On parlera des raisons qui nous ont poussé à porter le voile, pourquoi est-ce qu'on le porte, on parlera aussi du voile en lui-même, et vous allez voir que l'épisode il va être très très intéressant, on va tout donner. Et du coup, mettez des étoiles, commentez, partagez, suivez-nous sur notre Instagram op.firdaus. Et du coup, voilà, on implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et attributs les plus parfaits de faire de nous des femmes pieuses et vertueuses.
Amen.
Qu'Allah fasse qu'on se rapproche le plus de Aïcha, Mariam, Khadija, toutes les femmes qu'on vous a énumérées et celles qu'on n'a pas énumérées. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, nos manquements, qu'il nous pardonne à tous nos défunts, qu'il nous accorde Al-Firdaus comme repos éternel.
Amen.
Qu'Allah azza wa jal étende ses prières et ses salutations sur notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sur sa famille ainsi que ses compagnons. Radiallahu anhum. Assalamu alaikum. alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh.
من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان.